Chapitre 31. Violette. Le jour qui suivit la réunion, le château se transforma en véritable fourmilière. Les gens couraient dans tous les sens, divisés en plusieurs équipes aux tâches différentes et qui, d'après Violette, passaient le plus clair de leur temps à se gêner les unes les autres. La communauté avait voté à une majorité écrasante en faveur de la JTF. Aussi suivait-elle ses recommandations en fortifiant le bâtiment. Jenny et Mike avaient décidé de construire une barricade qui entourerait le château et les deux musées encadrant le jardin au sud. Une équipe se rendait donc dans les rues adjacentes pour forcer des voitures et les pousser afin de former une ligne qui s'étendait de la 12e rue au pavillon des arts et industries en passant devant la galerie Sackler. Une autre construisait des murs avec du contreplaqué, du bois de rebut et des échafaudages récupérés sur des sites de construction pour combler les espaces entre leur refuge et les deux bâtiments adjacents. Ils furent terminés très vite, avant même le déjeuner. Et, en début d'après-midi déjà, une file d'automobiles bloquait Independence Avenue, percée d'un petit espace pour laisser les gens entrer et sortir.
« On va commencer à poster des gardes au niveau des points d'accès !»
déclara Mike, en aidant à mettre la dernière en place.
« Et si on a le temps, on rajoutera une barricade derrière ces voitures. »«
Si on a le temps, » pensa Violette. Elle regardait la rue depuis l'intérieur des fortifications. Allait-il subir un assaut ? Elle entendait des marteaux cogner de partout, car d'autres adultes condamnaient les fenêtres du rez-de-chaussée du château et des deux musées avec du contreplaqué. Elle était furieuse à l'idée de vivre dans le noir, mais elle devait faire confiance aux adultes. Ils savaient forcément ce qu'ils faisaient. D'autres équipes barricadaient les portes d'entrée des bâtisses pour faire en sorte qu'il soit uniquement possible d'approcher de leur foyer par le sud. Tous passèrent la journée entière à travailler. Et le soir, les enfants étaient tellement nerveux qu'aucun ne parvint à trouver le sommeil. Ginny ne vint pas les voir comme elle le faisait souvent quand elle les savait effrayés, ce qui ne les aida pas à se calmer. Elle devait s'occuper encore de quelque chose. Mais Violette aurait justement voulu que ce soit d'elle. Ce jour-là, les adultes ne s'étaient adressés à eux que pour les prier de leur rendre service ou pour leur reprocher d'être dans leurs pattes. Peu avant, lors du dîner, Mike et Ginny avaient fait un discours à l'assemblée au sujet de l'avancée des travaux. Le rez-de-chaussée du château était assez bien sécurisé, tout comme les espaces entre le bâtiment et les deux musées. Au matin, ils finiraient de condamner les fenêtres du rez-de-chaussée de ces derniers, de les renforcer, pour reprendre l'expression de Mike. Tous les enfants avaient assisté à des fusillades au cours des mois qui avaient suivi l'épidémie. À présent, dans l'obscurité de leur chambre, ils se demandaient tous s'ils survivraient aux prochaines.
« Vous savez qui va nous aider ?»
lança Ivan.
« La division. »
« C'est vrai, »
acquiesça Amelia.
« C'est ce qu'ils font toujours. »
Elle leur avait effectivement sauvé la vie à la mare, pensa Violette, mais il s'en était fallu de peu. Néanmoins, tout s'était bien terminé. Si seulement il suffisait d'appeler un numéro pour faire venir des agents à la rescousse. Bien sûr, il faudrait déjà qu'ils aient des téléphones. Et seule la JTF et la division semblaient en posséder. C'était d'ailleurs valable pour la technologie de manière générale.
« La JTF peut nous voir depuis la Maison Blanche, » dit Noah. « Au moindre problème, ils interviendront. Tout va bien se passer. »« Mais on ira où, si c'est pas le cas ? Il nous faut un plan, »
fit Shelby. Pour une si petite fille, à peine 9 ans d'après Violette, elle était vraiment accro au plan. Peut-être qu'il lui permettait de se sentir plus en sécurité. Violette, elle, se sentait moins vulnérable quand on lui disait la vérité. Et parfois, mettre un plan au point revenait à se mentir, si sa réussite n'était pas véritablement assurée.
« On ferait mieux de dormir, » marmonna Wiley, lassé. « Je suis fatigué. J'ai pris une balle, je vous rappelle. »«
Attention tout le monde, Wiley a pris une balle !»
lança Saïd.
« Tu es sûr que c'était pas une fléchette anesthésiante ?»
plaisanta Amelia. Certains gloussèrent. D'autres étaient trop tendus pour rire à quoi que ce soit. Quant à Violette, Elle espérait seulement pouvoir s'endormir et se réveiller dans un monde qui ressemblerait à celui d'avant. Le lendemain, ils se remirent à la tâche de bonne heure. Les adultes leur donnaient tant de travail qu'ils n'avaient même pas le temps de se faire du mauvais sang. À midi, Juni s'assura que chacun puisse manger un peu plus s'il le souhaitait, en puisant dans les meilleures conserves qu'ils gardaient en réserve, comme des salades de fruits ou des spaghettis avec boulettes de viande. Puis, au milieu de l'après-midi, Sébastien revint au château. Cette fois, il était seul. Violette et les autres enfants portaient des affaires pour ceux qui fortifiaient la rangée de voitures. Même Wiley, qui se sentait un peu mieux, les aidait à transporter du bois de rebut et à en retirer des clous pour qu'ils puissent les réutiliser. La jeune fille vit Sébastien approcher des deux SUV qui marquaient l'entrée du jardin, un gros noir ainsi qu'un blanc plus ancien. Il toqua sur le capot du premier.
« Salut ! Mike ou Juni sont dans le coin ?»
il remarqua Violette.
« Je te reconnais, toi !» lui dit-il. « On s'est vu près du manège ?»«
Bonjour !»
répondit-elle au prix de tout son courage.
« Tu peux aller me chercher Mike ou Juni. Je bouge pas d'ici. »
Il s'appuya nonchalamment contre l'aile de la voiture, et Violette se précipita à l'intérieur du château. Elle trouva Mike de l'autre côté du bâtiment, occupé à traîner une bibliothèque devant une fenêtre.
« Le monsieur de l'autre jour, celui avec les tatouages du drapeau, » dit-elle. « Sébastien, il est là. »
Mike hocha la tête, l'air sinistre.
« D'accord, Violette. Merci. Qui d'autre l'accompagne ?»«
Personne. Il est venu seul. »
répondit-elle en suivant Mike hors de la pièce. Il posa la main sur son épaule.
« Rassemble les autres petits, tu veux. Mets-les à l'abri, au cas où ça dégénère. »«
Mais il est tout seul, » lui rappela-t-elle.
« Peut-être. Mais on n'en est pas sûr. Il peut très bien avoir une dizaine d'hommes qui attendent au coin de la rue. Contente-toi de faire ce que je t'ai demandé, d'accord ?»
Violette se rendit à l'endroit où Wiley et Amelia récupéraient des clous, près de la galerie Saclair.
« Le monsieur du manège, Sébastien, il est revenu !»
leur annonça-t-elle. Tous trois remontèrent alors discrètement la rangée de voitures pour voir et entendre ce qui se passait, mais sans trop se rapprocher. Sinon, Mike les remarquerait et leur dirait de s'en aller.
« C'est pas la réponse que j'attendais après notre conversation, Mike !»
entendirent-ils le tatoué dire en approchant.
« Il y a des tas de menaces dans cette ville, Sébastien, » répondit-il. « L'un de nos enfants a failli se faire tuer par une bande de voleurs il n'y a pas 2 semaines. Et voilà qu'on nous apprend qu'une sorte de secte tente de relancer l'épidémie sur Roosevelt Island. Nous tenons à rester en dehors de ça, de tout ça. Nous allons cultiver nos propres potagers, nous protéger et prier pour que les choses reviennent à la normale.
« Bonne idée !» fit le milicien. « Mais pas très réaliste au vu de la situation. Tôt ou tard, tout le monde devra choisir son camp. Le gouvernement a un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. La JTF est dépassée et n'arrive même pas à maintenir l'ordre à 500 mètres de la Maison-Blanche. Personne ne va débarquer en ville pour nous aider. Si vous comptez sur ces institutions pour vous sauver, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. »
Il s'appuyait toujours contre le SUV, et Violette remarqua qu'il faisait quelque chose avec son doigt sur le capot. On aurait dit qu'il traçait une sorte de dessin, mais peut-être qu'elle s'imaginait des choses.
« On peut dire que vous savez vous vendre !» ironisa le chef du château.
Sébastien haussa les épaules en souriant.
« Les faits sont là, Mike. Il n'y a que nous, à Washington, qui puissions vous aider. » L'ordre ne reviendra pas dans les États-Unis si la situation ne s'améliore pas dans sa capitale. Et si l'ordre ne revient pas, les États ne seront plus vraiment unis. Si on ne recolle pas les morceaux par tous les moyens nécessaires, c'en est fini de l'Amérique. C'est aussi simple que ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, je refuse de rester là sans bouger pendant que tout se casse la figure.
Je suis d'accord. Je n'ai pas envie que ça se produise non plus.
« Alors vous devez revoir certaines de vos décisions, »
rétorqua Sébastien en faisant retomber ses lunettes de soleil sur son nez.
« Je ne vous reproche pas de vouloir vous défendre vous-même, Mike. Vous et les gens sous votre responsabilité. Mais peut-être devriez-vous réfléchir aux personnes dont vous comptez vous protéger. Parce qu'une fois votre décision prise, ces personnes-là n'auront pas d'autre choix que de vous considérer comme des ennemis. Alors pensez-y bien. »
Il se frotta le bout des doigts, puis tapota le capot du poing.
« Enfin, je parle, je parle. » « Prenez quelques jours pour méditer tout ça. Je reviendrai quand vous serez moins occupé pour qu'on puisse en rediscuter. »
Sébastien repartit alors lentement le long d'Indépendance Avenue, sous l'œil de Mike. Ce dernier se retourna et vit que tous ceux qui travaillaient le long de la rangée de voitures le regardaient.
« On ferait mieux t'y remettre, » lança-t-il. « J'ignore combien de temps il nous reste. »
Tout le monde reprit le travail. Wiley et Amelia retournèrent à leur tas de bois. Violette voulut les rejoindre, mais avant, il fallait qu'elle sache ce que l'homme avait dessiné. Elle passa entre les deux SUV et se hissa sur la pointe des pieds pour mieux voir. Grossièrement tracée sur la poussière du capot, elle vit le drapeau des États-Unis.